Bonjour Luc Carvounas.
Bonjour.
On va parler de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, de la grève à la SNCF et du congrès du Parti Socialiste qui a eu lieu ce week-end. Mais d'abord, cette phrase d'Emmanuel Macron qui suscite de très nombreuses réactions. C'était hier soir. Le président de la République prononçait un discours au collège des Bernardins devant la conférence des évêques de France et il a dit, j'ouvre les guillemets, vouloir réparer le lien entre l'Église catholique et l'État français qui s'est abîmé. Ce propos a depuis suscité une avalanche de réactions indignées ou très choqués, à gauche essentiellement. Êtes-vous de ceux qui sont choqués ?
Choqués, troublés, je ne vais pas m'arrêter seulement à une phrase, Frédéric Rivière. Si on était à relire le verbatim du discours, il y aurait tellement d'autres choses à souligner ici à votre antenne. Je n'ai pas compris.
Du même ordre d'idée, vous voulez dire ?
Du même ordre d'idée, et puis qui demande explication au chef de l'État. Ouais. Qu'il aille s'expliquer et discuter ou dialoguer à une invitation de la conférence des évêques, il est dans son rôle. Mais ensuite, moi j'ai entendu un discours de la part du président de la République qui, dans le cadre de mon travail de parlementaire, va me poser question quand nous allons avoir à traiter des sujets aussi difficiles que la PMA, que le droit à mourir dans la dignité. En gros, le président de la République, quand il nous parle de rétablir le lien, mais à quel moment le lien a été rompu et de quel lien nous parle-t-il ? Il fait référence, comme il l'avait fait dans un interview pendant la campagne présidentielle, au mariage pour tous, quand il disait lui-même, reprenez son verbatim du candidat Macron, que le mariage pour tous avait humilié des Français. À quoi pense-t-il ? Donc, moi, je pense que la loi de 1905 est une loi précieuse et ce qu'est en train de faire le président de la République alors qu'on attend depuis des mois son grand discours sur la laïcité est plus que troublant.
Vous attendez des éclaircissements de sa part dans les
prochains
jours ?
Complètement. Ouais. Mais vous savez, Frédéric Rivière, ça fait un petit moment qu'on attend beaucoup d'éclaircissements. Finalement, quand les Français ont choisi Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, savait-il réellement qui était Emmanuel Macron et ce qu'il pensait sur tant de grands sujets ? Non. Aujourd'hui, nous sommes en train de découvrir la véritable pensée politique d'Emmanuel Macron.
Bon, il aura l'occasion sans doute de s'expliquer, puisqu'on va beaucoup l'entendre ces prochains jours.
Il paraît.
Il sera jeudi midi l'invité du journal de la mi-journée de TF1, et puis dimanche soir, il sera sur BFM et Mediapart, via le site internet. Comment d'ailleurs vous interprétez cette séquence médiatique, double séquence médiatique, après un très long silence ?
D'abord, c'est un plan com finement bien mené, puisque dans le « et en même temps » d'Emmanuel Macron, le saucissonnage de la société, il choisit des fenêtres de tir d'expression qui permet de couvrir tout le champ de la société. C'est plutôt bien vu. Après, pour le reste, c'est encore une fois la démonstration, je vais le redire à cette antenne, sur les grands dossiers dès qu'ils deviennent épineux, de la faiblesse de son dispositif gouvernemental. On ne comprend pas ce que dit Madame Borne tellement elle est encore empêtrée dans son discours de technocrate. On entend à peine, il est enfin sorti de son silence Nicolas Hulot qui est le ministre de tutelle sur ce dossier. Édouard Philippe rame dès qu'il le peut dans l'hémicycle, dès qu'il est interpellé. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, on a face à ce gouvernement fait juste de techno et de gens qui étaient désireux de diriger pour diriger le pays, un président de la République bien seul et qui encore une fois est obligé de retrousser les manches lui-même et d'aller parler avec les Français. Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas parce qu'il ne faut pas croire que parce qu'on va aller au JT de 13h de M. Pernaut ou chez Bourdin dimanche soir, que la contestation qui est en train de monter de toutes parts dans la fonction publique, mais pas que chez les salariés, du privé, je pense à Carrefour, je pense à Coca-Cola, ce pays est brutalisé et malmené et les Français sont en train de s'en rendre compte.
Alors il y a la fermeté sur la SNCF, il y a l'évacuation de la ZAD, la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, qui a d'ailleurs repris ce matin pour la deuxième journée, évacuation de certaines universités. Est-ce que vous pensez que le président de la République a choisi une stratégie précisément de fermeté, une stratégie de confrontation ?
Bon, moi déjà je tire mon chapeau à nos forces de l'ordre qui répondent à des ordres et qui essayent de faire leur travail dans les meilleures conditions.
Vous parlez de Notre-Dame-des-Landes.
Notre-Dame-des-Landes, mais je pense aussi aux images extrêmement brutales que j'ai vues hier à la fac de Nanterre, quand des policiers sont obligés, parce que sur ordre, d'aller exfiltrer juste la jeunesse française. la future élite de ce pays. Voilà ce qu'est aujourd'hui le macronisme dans son dialogue soi-disant permanent. Et donc, aujourd'hui, il y a cette ZAD qui doit être évacuée. Les dispositions sont prises de ce que j'entends par le ministre de l'Intérieur. Il faut que cela se passe, selon moi, dans les meilleures conditions. Mais je vois aussi qu'on a en face de nous, une petite centaine de personnes assez déterminées à vouloir rester.
Mais est-ce qu'il fallait le faire? Est-ce qu'il fallait dire il faut faire respecter le droit maintenant?
Alors, mais moi je l'ai déjà dit
plusieurs
reprises.
Ce lieu doit être évacué.
Je vais redire ce que j'ai dit mille fois. Moi j'étais pour l'évacuation de la ZAD parce que nous sommes dans un état de droit et j'étais aussi pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
Et certains se demandent du coup ce que défendent aujourd'hui les zadistes dans une zone dans laquelle il n'y a plus de projet d'aéroport.
Les zadistes défendent leur marque, c'est-à-dire créer des états de non-droit et faire des bras d'honneur aux forces de l'ordre et à la République française.
Pour vous, la réforme de la SNCF peut-elle conduire à une privatisation de l'entreprise, comme le disent les syndicats?
D'abord, elle en prendra le chemin, puisque le fameux rapport de M. Spinetta, souvenez-vous, c'était déjà M. Spinetta qui avait privatisé Air France. Donc tout est dans tout. Et donc aujourd'hui, les débats ont commencé hier. Malgré tout ce que l'on aura apporté encore toute la semaine, mon groupe, le groupe Nouvelle Gauche, mais la gauche en général, avec cette majorité écrasante qui vote au canon tout ce que décide ce gouvernement, il y a aujourd'hui un vrai risque à la fois pour le statut des cheminots, hein, je le dis, ce sera une des lignes rouges dans nos débats aujourd'hui au Parlement, comme une autre ligne rouge sera la fermeture des petites lignes. Il ne suffit pas d'entendre à Édouard Philippe nous raconter que les 9000 km de lignes ne sont surtout pas fermées sur le 30 000 km de réseau parce que transférées aux régions, mais avec quel budget? Cela veut dire, si Édouard Philippe est sincère, que dans le prochain projet de loi de finances 2009, il y aura d'intégrer une enveloppe spécifique pour les régions, pour les 9000 km de lignes, ou alors on raconte des carabistouilles aux Français.
Le Parti socialiste a donc un nouveau premier secrétaire. Vous étiez candidat, mais ce n'est pas vous qui avez été choisi.
C'est la règle du jeu.
Voilà,
c'est une démocratie interne.
C'est Olivier Faure qui a été officiellement investi lors du congrès qui a eu lieu ce week-end à Aubervilliers. Est-ce que vous lui faites confiance à Olivier Faure pour faire renaître votre parti?
J'ai fait confiance à Olivier Faure il y a à peu près un an quand j'ai voté pour lui comme président du groupe à l'Assemblée nationale.
Oui, mais peut-être que ça suffisait dans votre esprit, président du groupe.
Ah, moi, je pensais qu'il était un très bon président de groupe.
Oui, et qu'il aurait pu y rester.
Nous
par
allons avoir un débat ce matin et je vous le dis ici à cette antenne, si Valérie Rabault se présente, moi je souhaite que Valérie Rabault soit présidente du groupe à l'Assemblée nationale. Elle serait alors la première femme présidente du groupe socialiste sous la Ve République. Ce sera un très joli symbole. En tout cas, elle est ma candidate. Pour le reste, oui, je fais confiance à Olivier Faure. Après, j'attends de savoir ce qu'il propose sur la feuille de route. En tous les cas, j'ai démontré, les amis aujourd'hui qui m'ont fait confiance dans le cadre de ce congrès militant et élu, que j'étais un garçon loyal à ma famille politique. Tout mon parcours l'a démontré dans ces dernières années. Mais j'ai mes lignes rouges, moi aussi. La première ligne rouge, c'est une opposition ferme à Emmanuel Macron, c'est ce que j'ai entendu dimanche matin de la part d'Olivier Faure. La deuxième ligne rouge, c'est celle de ma gauche arc-en-ciel, de l'Union des Gauches, mais pas que, avec les syndicats, les associations citoyennes. C'est pour ça qu'il faut être dans le mouvement social. Il faut qu'on ait un débat au Bureau national pour notre participation ou pas le 5 mai prochain. Et sur la question des alliances à gauche, là, je suis resté un peu sur ma faim dimanche matin.
Le Parti socialiste a un nouveau premier secrétaire, mais a-t-il un candidat pour la prochaine élection présidentielle?
Je ne crois pas, non. Beaucoup de noms circulent, mais avant que des noms circulent, moi je commence à en avoir un petit peu marre qu'on serve, nous, les élus locaux ou les élus tout court, de marchepied aux carrières des uns et des autres. Avant qu'on commence à se positionner de nouveau vers la présidentielle, préparons les européennes, nous allons le faire, et puis préparons surtout les échéances municipales. Parce que la mort du Parti socialiste, que certains ont déjà décrété, elle ne sera effective que si nous loupons ce grand rendez-vous que sont les élections municipales, parce que le socialisme municipal est pour le coup le seul point de départ de notre véritable renaissance. Et là aussi, sur cette question-là, alors qu'il était le candidat des territoires, malheureusement, il n'a certainement pas eu le temps dans son long discours de développer, mais j'aurais aimé avoir une partie plus large sur cette question qui concerne tant de centaines de maires.
Merci Luc Carvounas. Bonne
Merci.
Journée.